dans l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Feuille de route chargée au Mali pour le nouveau gouvernement dont les 28 membres ont été désignés vendredi par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les militaires obtiennent les postes clés de la défense, de la sécurité et de la réconciliation nationale. Le pays traverse l'une des périodes les plus critiques de son histoire contemporaine, a reconnu hier le nouveau premier ministre Choguel Maïga, qui a fixé des priorités à son équipe, l'amélioration de la sécurité, des réformes politiques et institutionnelles, une lutte implacable contre la corruption et l'organisation d'élections crédibles en février 2022. Que pensez-vous de ce nouveau gouvernement? L'annonce par Emmanuel Macron jeudi de la fin de l'opération Barkhane va-t-elle peser sur la suite de la transition? Comment le Mali et ses partenaires du G5 Sahel doivent-ils se positionner par rapport à l'Alliance internationale contre le terrorisme souhaitée par la France? On vous attend au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Le président français Emmanuel Macron a pris tout le monde de court, donc jeudi dernier, en annonçant la fin de l'opération Barkhane, pour laquelle 5100 soldats français sont déployés au Sahel. Doumbo, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Bamako, au Mali. À mes côtés, Pierre Firsion du service Afrique de RFI. Bonjour Pierre.
Bonjour Chantal.
Doumbo, on vous écoute. Que voulez-vous savoir?
Alors, Chantal, j'aimerais savoir pourquoi cette annonce maintenant?
Alors, Pierre Firsion.
Ben, écoutez, c'est un peu la question qu'on se pose. Hein. Pourquoi maintenant? Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on se défend de vouloir avoir fait, enfin, de toute annonce surprise. Hein. Ça fait un an qu'il discute de ça avec ses homologues. Ce qui avait été discuté au sommet de N'Djamena de février dernier posait les bases de ces annonces, affirme un de ses conseillers, qui assure que tout ce qui a été dit jeudi avait été clairement exposé au début de l'année par Emmanuel Macron à ses interlocuteurs sahéliens. Alors c'est vrai que quand on refait le fil et qu'on regarde ce qui a été dit en février dernier, au sommet de N'Djamena, le président français avait laissé entrevoir des changements. Il avait déclaré que des évolutions sans doute significatives seraient apportées à notre dispositif militaire au Sahel en temps voulu. Donc, en soi, ce n'est pas vraiment une surprise, d'autant que, vous l'aurez noté, la campagne présidentielle s'ouvre en France. On sait que l'opération Barkhane est de plus en plus impopulaire dans le pays. Certes, Emmanuel Macron a assuré jeudi qu'il ne fondait pas ses choix stratégiques ou militaires sur les sondages, mais il a déclaré aussitôt après que force est de constater qu'il y a un phénomène d'usure et qu'il y a un sentiment généralisé qu'on perd le fil de ce pourquoi nous sommes là. Donc, on voit bien qu'en annonçant la fin de Barkhane, en fait, Emmanuel Macron fait un peu ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en juin 2011. À moins d'un an de la présidentielle, le président de l'époque avait engagé le retrait des soldats français d'Afghanistan. Eh bien, Emmanuel Macron fait un petit peu pareil au Sahel.
Mais alors, comment expliquer, Pierre, que beaucoup de monde ait semblé pris de court par cette annonce?
Eh bien, parce que visiblement, le calendrier de cette annonce a été avancé. Selon nos informations, il était initialement prévu qu'Emmanuel Macron fasse ses annonces à la fin du mois de juin. Et c'est vrai que quand on repense un petit peu à la séquence de jeudi dernier, on voit bien qu'il y a un problème. L'annonce de cette transformation de la présence militaire française au Sahel et donc de la fin de Barkhane, s'est faite au cours d'une conférence de presse d'une heure et demie, conférence de presse qui était à la base consacrée au sommet du G7 et de l'OTAN. Et là, le sujet a été relégué, on pourrait dire, totalement au second plan. Le président français parle de santé, de multilatéralisme, de souveraineté européenne, même de relations avec l'Afrique. Et puis, soudainement, il annonce la fin de Barkhane à l'issue de son propos liminaire, après avoir parlé pendant trois quarts d'heure. En termes de communication, c'est assez incroyable. Surtout quand on veut faire une annonce de ce type, ça dit déjà en soi quelque chose. Et ça confirme une autre chose, Chantal, cette annonce-là n'était pas prévue à ce moment-là.
Alors pourquoi a-t-il décidé d'avancer cette annonce?
Eh bien, on peut émettre plusieurs hypothèses. Jeudi, lors de la conférence de presse, on a senti une vraie irritation du président français quant au choix opéré par certains des présidents sahéliens. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État à la stabilité politique et au choix des États souverains, a dit Emmanuel Macron. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible, ou alors c'est un travail sans fin. Il en a remis une couche quelques instants plus tard. Je suis obligé de constater que dans plusieurs États de la région, il n'y a pas eu un réengagement des décideurs pour faire revenir l'État et l'administration dans les zones qu'on libère du terrorisme militairement. en responsabilité. Ce n'est pas le rôle de la France de se substituer à perpétuité aux États. Le terrorisme restera à l'état endémique dans la région s'il n'y a pas un retour des services publics, des projets et des opportunités pour les populations. Fin de citation. On voit bien là, on sent bien dans ces mots choisis, hein, presque plus que de l'irritation, c'est de l'exaspération. Alors est-ce que c'est à cause de ça qu'Emmanuel Macron a décidé de faire des annonces plus tôt que prévu ? C'est possible. Est-ce que le contexte politique malien a pu faire accélérer le processus ? Le processus, c'est là encore une hypothèse, mais il y a sans doute autre chose, Chantal. C'est qu'à l'origine, ces annonces devaient être faites fin juin, plutôt dans un cadre européen. Or là, Emmanuel Macron les a faites seul, à Paris, à la veille des sommets du G7 et de l'OTAN, et surtout à 2 semaines d'un Conseil européen. C'est un peu une façon de dire et de mettre un petit peu toute la communauté internationale face à ses responsabilités, et en particulier l'Union européenne, à l'heure où la force européenne de Takuba a du mal à prendre son envol.
Dumbo, vous avez une autre question pour Pierre Firsion.
Voilà. Alors, comment se fera ce retrait ?
Alors, comment va s'effectuer le retrait des troupes françaises ? Ça va se faire par étapes, hein, Pierre ?
Oui, ça va se faire par étapes. On sait que ça va commencer, a priori, avec les bases qui sont situées dans le Nord Mali. Ça pourrait, visiblement, débuter d'ici la fin de l'année. On parle de l'automne. Il n'y a encore rien de visiblement totalement précis et acté, parce que cette annonce, encore une fois, a été un petit peu précipitée, même si les équipes du président français ne semblaient pas toutes encore vraiment mises au courant de tous les détails. C'est un processus qui va être assez long en soi, et ça va mobiliser énormément de moyens logistiques et de moyens humains. Donc les forces, on pourrait dire françaises, vont gonfler pendant un temps. Ça va prendre du temps. On aura sans doute un petit peu plus de détails à la fin du mois de juin, parce que Emmanuel Macron va préciser le calendrier et va, après avoir rencontré ses partenaires européens, en dire plus sur tout ce qui est prévu, notamment sur la fin de Barkhane.
On va retourner au standard où nous attend un autre auditeur. Jean Rosny, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour Christian.
Ah, vous nous appelez de Bukavu en RDC. Vous avez la parole, Jean Rosny.
Merci beaucoup Chantal. Par rapport à l'annonce du président Macron annonçant la suspension ou la fin de la mission Barkhane au Mali, je voulais savoir, est-ce que les présidents des États maliens, ou plutôt des États sahéliens, ont réagi aux propos durs que le président Macron a tenus à leur égard? Je ne sais pas s'il y a eu de réaction quant à ces propos durs.
Pierre Firsion, est-ce qu'ils ont réagi, les chefs d'État du G5 Sahel notamment?
Non, alors les chefs d'État n'ont pas réagi. Vous remarquerez que dans son intervention, le président français n'a cité personne, hein, nommément, même si on sent quand même que ses propos sont dirigés vers certains.
Dont le colonel Assimi Goïta.
On sent bien que quand il parle de l'absence de retour de l'État vers les zones gagnées militairement, on voit bien que c'est dirigé vers sans doute 2 pays, le Mali et le Burkina Faso. Mais il ne les a pas cités nommément. Et ces derniers, on remarquera, n'ont pas réagi. Leurs entourages n'ont pas réagi. Je crois qu'il n'y a que le ministre des Affaires étrangères nigérien qui a réagi à ce jour. On voit bien qu'il y a la volonté de sans doute pas mettre de l'huile sur le feu, mais clairement, on sent là qu'il y a un malaise. Alors, il va y avoir de toute façon de nouvelles discussions entre les chefs d'État, parce qu'il va y avoir ce Conseil européen, ça c'est sur le plan européen, mais il va y avoir aussi un sommet G5 Sahel qui devrait se tenir a priori début juillet. La question est de savoir, est-ce que le président français participera à cette rencontre ? C'est une question
intéressante. Qui risque d'être assez tendue quand même.
Voilà, on verra s'il y participera ou non.
Jean Rosny, est-ce que vous avez une autre question ?
Oui, une autre question, c'est de savoir, est-ce que ce président des États sahéliens seront capables de mettre sur pied de mesures capables à compenser l'opération Barkhane ?
Pierre.
Oui, c'est une très bonne question, mais c'est, je pense, encore beaucoup trop tôt pour le dire, parce que déjà, on voit que les dirigeants sahéliens ont été un peu surpris, ont été visiblement un petit peu pris de court par cette nouvelle. Ensuite, parce que Barkhane, d'une part, n'est pas encore parti, et puis on rappelle quand même que l'objectif côté français, c'est quand même que ce retrait progressif soit compensé en partie par une montée en puissance de la force européenne. Donc, est-ce que les États sahéliens vont vouloir compenser ces départs ? C'est déjà une première question. Je ne sais pas concrètement. On ne peut pas le dire aujourd'hui. Puis, si oui, comment s'y prendront-ils ? Là, c'est une deuxième interrogation, mais il faudra sans doute encore attendre plusieurs semaines ou sans doute plusieurs mois avant de pouvoir répondre à cette question-là.
Merci beaucoup Pierre Firsion pour ces précisions. On vous retrouve très vite sur l'antenne. Dumbo et Jean Rosny, merci pour vos questions. On va très certainement revenir sur cette fin annoncée de l'opération Barkhane dans la seconde partie d'appel sur l'actualité, puisqu'on attend vos réactions, vous le savez, après la nomination du nouveau gouvernement du Mali, pays concerné au premier chef par les annonces du président français. Utiliser des sirènes stridentes, des canons à son pour repousser les migrants demandeurs d'asile en Grèce. L'Union européenne trouve la méthode étrange, mais ne condamne pas la décision d'Athènes. Sylvère, bonjour.
Bonjour Chantal et bonjour à tous à l'écoute de RFI.
Vous nous appelez de Lomé au Togo. En ligne avec nous, Virginie Guiraudon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche du CNRS au Centre d'études européennes et comparées de Sciences Po, spécialiste des politiques migratoires. Sylvère, on vous écoute.
Oui, Chantal, comme vous l'annonciez déjà, la Grèce est en fait dotée de canons sonores et ce, en vue de protéger ses frontières de l'arrivée des migrants. Du coup, moi, j'aimerais savoir comment fonctionnent ces canons.
Virginie Guiraudon, il faut d'abord souligner que le son est insupportable pour l'oreille humaine.
Oui, alors c'est effectivement c'est pas vraiment des canons, hein, mais c'est bien comme une sirène extrêmement stridente qui ressemble pratiquement, pour faire une comparaison, à un avion à réaction près de... Voilà. Et il y en a effectivement deux. Pour savoir où ils sont situés, c'est à la frontière en fait terrestre entre la Turquie et la Grèce, où il y a un fleuve en fait, hein, qui s'appelle le fleuve Evros, et qui s'accompagne aussi d'un mur de plus de 27 kilomètres avec des caméras thermiques, des radars high-tech. Donc c'est voilà tout un ensemble technologique qui a été construit et les canons ont été achetés après en fait février 2020. Où il y avait eu des milliers de migrants qui avaient été amenés en autocar souvent à cette frontière gréco-turque et donc qui ont été achetés par la suite. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en février 2020, la présidente de la Commission européenne, le président du Parlement européen, le président du Conseil s'étaient rendus à cette frontière pour soutenir la Grèce dans sa lutte entre guillemets contre l'immigration irrégulière.
Mais très concrètement, donc ces canons à son, entre guillemets, hein, sont installés sur des blindés.
Oui, enfin, ils sont près de la frontière, sur des, mais près de donc de ce mur, hein, de ce nouveau mur de plus de 5 mètres de haut.
Mais comment la présence éventuelle de migrants est-elle détectée par les hommes qui patrouillent à bord de ces blindés?
Alors, il y a des patrouilles, mais comme je vous l'ai dit, hein, il y a des caméras, il y a des radars donc qui sont aussi utilisés, il y a des caméras thermiques. Donc, quand je dis caméras, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi la nuit voir les mouvements des personnes. Il y a des capteurs, donc c'est vraiment de la... On dit en anglais des e-borders, une frontière électronique. Il y a tout un ensemble de technologiques, en fait, qui est déployé.
Sylvère, vous avez une autre question?
Oui, en fait, cette décision suscite peu de réactions de la part de l'UE. Est-ce à dire que l'utilisation de ces canons est en accord avec les droits européens et les droits humains?
Virginie Guiraudon.
Alors, pour le moment, c'est pas tout à fait clair, j'ai envie de dire. Il y a deux façons de répondre à cette question. Et d'ailleurs, la Commission européenne a dit qu'ils trouvaient ça étrange et qu'ils allaient se renseigner sur leur conformité, justement, aux droits européens et aux droits de l'homme internationaux. La question se pose si, en fait, c'est une façon d'empêcher les personnes de traverser. Et là, ça veut dire que normalement, on doit pouvoir traverser cette frontière pour demander l'asile et à la fois ne pas le pouvoir si on le fait de façon régulière. Donc c'est une contradiction entre deux choses. Cette politique européenne qui criminalise en fait les traversées de la frontière et l'autre droit qui est le droit d'asile qui lui au contraire permet de quitter son pays et de demander l'asile, en l'occurrence ici en Grèce.
Les ONG, elles, sont vent debout contre ce nouvel outil de dissuasion.
Oui, alors, sachant qu'on est dans un contexte vraiment très, très tendu depuis très longtemps en Grèce, mais comme vous le savez peut-être, il y a aussi en mer ce qu'on appelle des pushbacks, c'est-à-dire des garde-côtes grecs, mais aussi des accusations contre l'agence européenne Frontex, qui repoussent les migrants qui essayent d'arriver sur les îles grecques. Donc là, c'est pour le coup une violation très claire du droit international, que à la fois droit d'asile et ce qu'on appelle le principe de non-refoulement. Donc ces canons sonores, j'ai envie de dire, c'est peut-être la goutte d'eau pour les ONG, mais dans un contexte déjà où il y a beaucoup de violations au quotidien du droit d'asile à cette frontière sud.
Merci beaucoup Virginie Guiraudon pour ces explications, Silver. Merci de votre appel. On revient maintenant sur la condamnation à perpétuité de Ratko Mladic, arrêté en 2011 après 16 ans de cavale et jugé pour les crimes commis pendant la guerre de Bosnie de 1992 à 95. Sa peine de prison à vie a été confirmée en appel jeudi dernier à La Haye par la justice internationale. Fiston, bonjour.
Bonjour Chantal Leroux, bonjour à tous les auditeurs de RFI et particulièrement au Togo.
Vous êtes en ligne de Cara, au Togo donc. Avec nous également Aline Cateux, bonjour.
Oui, bonjour Chantal Leroux, bonjour.
Vous êtes doctorante en anthropologie à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique, en charge de la Bosnie-Herzégovine au sein de l'association Le Courrier des Balkans. Fiston, vous avez la parole.
Exactement. L'ancien chef militaire serbe Ratko Mladic, surnommé le boucher des Balkans, a été condamné en appel pour génocide et crime contre l'humanité. Quelle était son implication dans la guerre de Bosnie?
Aline Cateux.
Alors, je vous remercie tout d'abord de me permettre en fait de répondre à un des auditeurs de RFI. Ça me fait particulièrement plaisir. Alors, Mladic en fait a eu une éducation militaire très longue et très exemplaire au sein de l'armée, ce qui était à l'époque l'armée populaire yougoslave. Il y est rentré au milieu des années 1960 et il en a gravi tous les échelons petit à petit, donc de ce milieu des années 60 jusqu'au début des années 90. Alors c'est important de rappeler que cette armée populaire yougoslave, hein, sa mission principale c'était un, évidemment, de protéger la Yougoslavie d'agression extérieure, mais aussi, voire surtout, de faire respecter la devise de la Yougoslavie qui était fraternité et unité, et de défendre les civils. Donc on mesure toute la cruauté, en fait, quand on voit un petit peu la fin du parcours militaire de Mladic, qui devient chef d'état-major de l'armée des Serbes de Bosnie en mai 92, à la formation de la République des Serbes de Bosnie. Concrètement, du coup, ben, il se retrouve à la tête de cette armée dont le but est de conquérir un territoire qui va permettre aux Serbes de Bosnie de rattacher cette partie du pays à la Serbie. Et du coup, ces territoires doivent être ethniquement homogènes. Donc on commence à parler de nettoyage ethnique, ce qui est souvent un euphémisme pour ne pas parler en fait de génocide. Et puis ben, la suite, on la connaît, vous l'avez rappelé
le massacre de Srebrenica, notamment en 95, 8000 hommes et adolescents musulmans exécutés froidement par les forces serbes de Bosnie.
Oui, tout à fait. Dans les quelques jours qui ont succédé à la prise de la ville le 11 juillet. Donc, il est également inculpé pour crimes contre l'humanité et notamment pour, entre autres, le siège de Sarajevo, puisque voilà, donc sa sentence de prison à vie a été confirmée, notamment pour ces crimes-là. Les crimes de génocide dans les 6 autres municipalités pour lesquelles il était inculpé n'ont pas été retenu. Mais bon, crime contre l'humanité, c'est pas non plus
une petite charge,
peine, oui. En fait, mm-hmm. Un petit verdict. Ouais.
Aline Cateux, brièvement, y a-t-il d'autres responsables impliqués dans cette guerre qui n'ont pas encore été poursuivis par la justice? En quelques mots.
Oui, tout à fait. En fait, c'est la Chambre des crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine qui doit les juger. Malheureusement, les cas qui ont été transférés par l'AEV vers Sarajevo n'avancent pas. Hein, et puis, le processus est extrêmement long. Il y a environ 600 verdicts qui ont été rendus depuis 2005. Il y a 2000 enquêtes en cours en suspens. Et il y aurait encore environ 5000 cas non traités.
Merci beaucoup, Aline Kateu, d'avoir répondu à nos questions. Fiston, merci de votre appel. Bonne journée à tous les deux.